Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 14, et versets 1 à 16. Mais pour les besoins de compréhension du passage, on va se rendre jusqu'à la fin, mais on va quand même étudier juste les 16 premiers versets. Or, il arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elassar, de Kedorlaomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi des nations, qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shéméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Tous ceux-ci se rassemblèrent dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. 12 ans, ils avaient été assujettis à Kedorlaomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent. Et la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui vinrent et bâtirent les Réphaïm à Astaroth-Carnaïm, les Uzim à Ham, les Émim dans la plaine de Kirjataïm et les Oriens dans leur montagne de Séhir jusqu'à El Paran qui est près du désert. Puis ils retournèrent et vinrent à la fontaine du jugement qui est à Kadès et bâtirent tout le pays des Amalécites et aussi les Amoréens qui habitaient à Hatsatson-Tamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent et rangèrent leurs troupes en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi des Lames, Tidéal, roi des Nations, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'El-Lassar. 4 rois contre 5. Or, il y avait dans la vallée de Sidim beaucoup de puits de bitume. Et le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Et ceux qui échappèrent s'enfuirent vers la montagne. Alors ils prirent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et tous leurs vivres et s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait dans Sodome, et tout son bien, et ils s'en allèrent. Et un fugitif vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Or, il demeurait au chêne de Mamré l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Et quand Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses fidèles, nés dans sa maison, et poursuivit ses rois jusqu'à Dan. Puis, ayant partagé ses troupes, il se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Hoba, qui est à gauche de Damas. Et il ramena toutes les richesses qu'on avait prises. Il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, et les femmes aussi, et le peuple. Alors on va continuer jusqu'à 24. Et le roi de Sodome sortit au-devant de lui, après qu'il fut revenu de battre Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, vint apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les richesses et prends les richesses pour toi. » Donne-moi les personnes, c'est-à-dire, « Donne-moi les personnes et prends les richesses pour toi. » Et Abraham dit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre, que je ne prendrai pas même un fil ou une courroie de souliers, rien qui t'appartienne, en sorte que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham, rien pour moi, seulement ce que les jeunes gens ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Abner, Aner, Escol et Mamré, pour eux, qu'ils prennent leur part. » Alors, la clé, je vous disais que la clé est là, parce que on traduit Dieu très haut, mais dans l'original, c'est un nom de Dieu. C'est le mot El Elyon.
Alors, El Elyon, c'est un nom de Dieu qui est utilisé, qui a une signification très, très, très profonde. On va le voir un peu tantôt. Alors, on peut regarder les 16 premiers versets et être porté à voir la victoire d'Abraham comme étant une victoire un peu personnelle à cause de son habileté, de son courage, etc. Mais je pense que la fin du chapitre 14 est très claire pour nous dire qui, à cause de qui il y a eu la victoire. Alors, c'est important de voir cela dès le début, parce que à ce moment-là, on ne fait pas d'erreur. Alors, j'ai intitulé le message aujourd'hui « Le Dieu très haut », ou on aurait pu dire « El Elyon », « Le Dieu très haut fait participer Abraham à la guerre ». Alors, on avait vu dans la leçon précédente que Abraham s'était séparé de son neveu Lot. Lot avait choisi la plaine. Il avait choisi un petit peu de s'établir un petit peu en dehors de la terre de Canaan. Et à cause de la commodité de tout cela, à cause de la fertilité du terrain et de la facilité, il avait décidé. Et lui, Abraham, avait donné, cédé son droit à son neveu, en voulant dire « prends ça pour éviter la chicane ». Alors, il avait très bien agi, et le Seigneur, il était comme dans un endroit où il se reposait, où il était en paix avec Dieu, où il avait offert des sacrifices à Dieu, il était dans un esprit d'adoration, et voilà maintenant que la guerre arrive. Alors, on peut se poser des questions. Même si tu sers Dieu, tu es fidèle, Dieu peut permettre des circonstances qui peuvent être très difficiles dans ta vie. Et on voit que dans le fond, c'est pas Abraham qui a choisi de participer à ça. Il était impliqué là-dedans un peu malgré lui, un peu comme Lot aussi malgré lui. Et alors la guerre entre les nations a pogné et ils ont été impliqués à l'intérieur de tout cela. Alors, on va diviser le texte en trois parties. Le Dieu très haut, ou El Elyon, permet la guerre. Alors, bien entendu, ce qui était vrai à cette époque-là est encore vrai aujourd'hui. Les guerres sont permises de Dieu pour punir les nations ou pour corriger les justes. C'est difficile de faire la part des choses parce que des fois, il fallait les deux en même temps. Alors, la deuxième chose qu'on va regarder, c'est que le Dieu très haut juge par la guerre. Alors, on voit que dans le verset 12, Lot a été fait prisonnier et a été amené, il aurait pu perdre sa vie. Dieu était quand même miséricordieux, a permis qu'il ne perde pas la vie et qu'un fugitif s'est échappé pour aller avertir Abraham du fait que son neveu avait été envoyé à la guerre. Si Abraham aurait eu un caractère revanchard, il aurait pu dire, il a voulu aller là. Ça rend un vieil trop, pasteur. Alors, on voit que Abraham était prêt même à risquer sa vie pour aller récupérer son neveu. Alors, Dieu permettait ces circonstances-là. Alors, le premier point qu'on va regarder, Dieu permet la guerre, versets 1 à 11. Deuxième point, le Dieu très haut juge par la guerre. Parce que bien sûr que le fait que Lot soit fait prisonnier et tous ses biens lui soient enlevés, c'est un jugement du Seigneur. Et versets 13 à 16, le Dieu très haut contrôle la guerre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de voir que ce n'est pas uniquement l'habileté d'Abraham qui fait en sorte qu'il ait la victoire. Alors, bien sûr, la clé de compréhension, comme je l'ai dit tantôt, du chapitre 14, se trouve dans les versets 18, 19, 20 et 22. Du même chapitre. À ces endroits-là sont mentionnés à quatre reprises le nom de Dieu qui explique le déroulement de la guerre dans laquelle Abraham se trouve impliqué bien malgré lui. Alors ce nom, dans l'hébreu original, est El Elyon. Si vous allez dans n'importe quelle Bible où vous avez l'hébreu, ils ont traduit le Dieu très haut, c'est El Elyon. Donc c'est un nom de Dieu, mais les noms de Dieu signifie des choses très profondes quant à sa nature, quant à ce qu'il est. Alors, le nom, comme vous le savez, est composé, c'est un nom composé. El, E-L, trait d'union. Elyon, c'est E-L-Y-O-N ou E-L-I-O-N, ça dépend des auteurs. Il y en a qui mettent Y, il y en a qui mettent I. En tout cas, Les deux noms sont là. Le nom est composé, donc le nom El. Le nom El, c'est un nom qui, des fois, on le voit dans la Bible comme seul, non pas avec un trait d'union. Quand on parle de El, on parle toujours du Dieu fort. Le fort. On pourrait traduire le mot El par le fort, en parlant du Seigneur, de Dieu lui-même. Et Elion signifie créateur et maître des cieux et de la terre. Donc les deux idées sont dedans. C'est lui qui l'a créé, les cieux et la terre, et c'est lui qui en est maître dans tout ce qui se passe dans cette sphère-là, dans les deux sphères célestes et terrestres. Alors, absolument rien ou personne ne peut se comparer à sa puissance et à sa hauteur. Il est le plus haut, l'exalté, le suprême. Je disais, j'ai un petit livre que je me suis acheté récemment sur les noms de Dieu. Et je suis allé voir dans mon livre qu'est-ce qu'il disait sur El Elyon. Et la manière de présenter le nom de Dieu, c'était... Avez-vous remarqué qu'entre êtres humains, on est toujours en train de vouloir être au-dessus l'un de l'autre? Où on a plus d'argent, où on est plus intelligent, où on est plus habile. Et les gens n'arrêtent pas de vouloir toujours se mesurer, je suis plus haut que toi. Et des fois, c'est pas toujours dit, mais c'est souvent de la manière que ça se passe dans la vie de tous les jours que c'est de même, ça marche. Mais ici, quand on parle du Dieu très haut, ça veut dire qu'un être humain peut chercher à se montrer plus haut qu'un autre. Mais il ne peut pas monter. Jamais, jamais, jamais. Se comparer au Dieu très haut, l'exalter, le Dieu suprême. Alors, c'est important de saisir le nom de Dieu dans les derniers versets 18, 19, 20 et 22 pour comprendre que, dans le fond, tout ce qui est raconté dans les 16 premiers versets, c'est voulu de Dieu, permis de Dieu, et Dieu juge par cela, et Dieu contrôle tout cela d'une façon absolue. Alors, quand on voit ça, on voit le passage prend toute une autre tournure. Alors, est-ce que nous, comme chrétiens, on est convaincus que Dieu contrôle absolument toute chose, en tout temps? Peu importe ce qui se produit dans nos vies, le Seigneur est au contrôle. Il sait ce qui se passe, c'est lui qui provoque les événements, c'est lui qui fait en sorte que les choses se déroulent comme lui l'a prévu. Alors, est-ce qu'on est conscient de ça au niveau, à tous les niveaux, les nations par exemple? On a déjà vu que, bon, les nations sont divisées, le Seigneur permet que les frontières changent, les nations, une nation qui a déjà été très forte, par exemple l'Égypte, maintenant c'est insignifiant au point de vue militaire, et c'est de même, toute l'histoire humaine a été contrôlée par le Seigneur. Alors, donc c'est vrai au niveau des nations, c'est vrai au niveau des événements. Il se passe dans nos vies. Il se plaît. Toutes nos vies sont remplies d'événements de toutes sortes. Et il ne faut pas penser que ça, ces événements-là, sont hors du contrôle du Seigneur. Elion est au-dessus de tout cela. Alors, les événements et les circonstances de nos vies. Alors, pouvons-nous faire face aux tempêtes, aux épreuves et aux tentations que nous rencontrons sur notre route en confessant sereinement la phrase suivante? Mon Dieu, El Elyon, a tout sous son contrôle. Moi, je trouve que c'est un des noms de Dieu qui est rassurant. C'est un nom de Dieu, bien sûr, qui implique sa souveraineté. Il est au contrôle de toutes choses qui se passent sur la terre, que ce soit dans les vies d'individus sauvés ou dans les vies d'individus non sauvés, dans les institutions et dans les gouvernements. Alors, est-ce que tout cela nous amène à avoir confiance en sa puissance, parce qu'on parle de « elle », donc « le fort », et pour nous aider à résister à toutes les tentations que le diable nous propose? On le sait, on a notre chair, on a le monde, et on a Satan, et on a notre propre chair. Alors, c'est trois forces que lorsque leurs forces se conjuguent, se mettent l'une avec l'autre, travaillent ensemble, comme on dit, ça peut être très, très, très fort. Mais il y a quelque chose de beaucoup, infiniment plus fort que tout cela. Et c'est auprès de lui qu'on peut aller chercher la force de vaincre toutes ces choses-là qui peuvent nous arriver. Est-ce qu'on a suffisamment confiance pour croire que si Dieu a créé en nous un cœur nouveau, il a aussi le pouvoir de susciter en nous la faim et la soif de le connaître plus intimement. Ça, c'est intéressant, hein? Parce que si, dans notre esprit, on veut être plus proche de Dieu, on veut être plus intime avec lui, il n'y a seulement qu'une façon de l'obtenir. C'est sûr que tu peux faire les choses que la Bible te demande de faire, mais demander au Seigneur. Tu peux joindre les deux. Toi, faire tout ce que tu peux sur la terre avec les moyens que le Seigneur t'a laissés, mais tu peux lui demander à lui. Et lui, il a la puissance de te donner des choses que lui, il l'a dit, si tu demandes quelque chose qui est selon sa volonté, il va te l'accorder, s'il n'y a pas d'obstacle dans ta vie. Alors, on ne peut saisir une telle force, la force de elle, que lorsque on comprend la révélation de Dieu comme El Elyon. En termes actuels, cette révélation signifie « Dieu est le grand patron au-dessus de tout. Il a une force et une puissance infinies. Il n'y a donc pas d'accident dans nos vies, pas de hasard, pas de chance, pas de sort bon ou mauvais. Chacun de nos pas est conduit par le Seigneur. C'est pourquoi tout dans nos vies et dans l'univers entier est sous son contrôle absolu. » Je me souviens que Daniel Durand, quand il envoyait des emails, il s'était mis un verset dans le bas de ses emails, c'était que Dieu dirige nos pas. Quand on prend conscience de cela, ça aide à comprendre beaucoup de choses dans nos vies. Alors, les guerres, bien entendu, ne font pas exception à la règle que Dieu est au contrôle de tout. Parce que nous, on peut être porté à regarder les guerres et dire « Ah, ben là, c'est parce que tel pays s'est énervé contre un tel, il y a eu tel événement, ça a provoqué ici. » On voit ça comme une chaîne d'événements humains, mais souvent, on ne perçoit pas. La plupart des inconvertis, même des convertis, ne perçoivent pas nécessairement la main de Dieu dans des événements comme la guerre. C'est intéressant, le premier qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est Arthur Pink, à un moment donné, quand je lisais, je pense que c'était son livre sur la souveraineté de Dieu. Il parlait de la loi de la première mention. La loi de la première mention, ça veut dire que dans les Écritures, pour tout concept de la guerre, vous en faites de même, il y a une place où c'est mentionné pour la première fois. Et cet endroit-là, la loi de la première mention, c'est toujours comme tu as... Le concept en germe, on dit la Genèse, hein, c'est le livre où toutes les grandes idées sont là, mais en germe. C'est pas encore développé, mais ils sont là en germe. Alors, la première fois que le mot « guerre » est mentionné, c'est dans Hébreux, chapitre 14. Et la première fois, il y a deux lois de première mention dans le chapitre 14. Abraham va devenir Abraham. Alors, c'est très important de voir ces choses-là. Alors, les guerres sont-elles laissées aux mains des hommes ou le Seigneur les contrôle-t-il et dans quelle mesure? Alors, comme je vous disais au début, le Seigneur les utilise souvent comme mesure punitive pour les païens et comme mesure corrective pour les justes. Alors, on le sait dans l'Ancien Testament, quand Dieu voulait corriger son peuple, à cause de leur indolence, de leur paresse, de leur désobéissance, etc., ils permettaient que des guerres viennent contre eux. Et quand les peuples étaient dans l'obéissance, ils permettaient aussi qu'ils aient la paix. Alors, c'est comme des instruments que le Seigneur utilise. Trouvez une information intéressante dans un livre que j'ai à la maison qui s'appelle Wilmington Guide to the Bible. Autrement dit, c'est un théologien qui a pris toute la Bible au complet et il l'a divisé en thèmes et c'est une brique. C'est vraiment un livre très intéressant. Par exemple, il dit qu'il y a une société à Londres qui s'appelle Society of International Law de Londres en Angleterre. Eux sont spécialisés dans l'étude des guerres à travers l'espace et le temps. Alors, ils font juste ça, étudier la guerre. Alors, ils disent que sur les 4000 dernières années, il y aurait eu seulement 268 années de paix. Imaginez-vous, sur 4000 années de vie sur la Terre, il y aurait eu seulement 268 années où il n'y avait pas de guerre. Ça démontre qu'à quelque part, la guerre est toujours créée, est toujours amenée à cause du péché. Et ils disent que malgré ces 268 années de paix-là, il y aurait eu quand même sur la Terre 8000 traités de paix un petit peu partout. Alors les hommes, ils signent des traités, ça ne dure pas longtemps, ça recommence. Alors c'est vraiment intéressant de voir que dans le fond, la guerre, c'est le résultat du péché, tout le temps, en tout temps, pour différentes raisons qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors les motifs des hommes dans les guerres sont très souvent, ou presque tout le temps, des péchés. Quel péché? L'orgueil. Il y en a un qui, bon, il devient puissant, puis il se dit, bon, moi j'aimerais ça devenir le tyran de toute la terre. Il s'assied. Il manque le coup, mais on voit que l'idée de vouloir devenir ça est l'ambition. Un pays, des fois, il va bien, puis là, il décide, tel pays va mal, puis il est pauvre, puis il est mal organisé, c'est le temps de sauter dessus. L'histoire de l'homme, quand on étudie l'histoire, c'est tout ce qu'on voit. Les êtres humains qui s'exploitent entre eux autres, puis des fois, la guerre, ça amène des souffrances tellement abominables et tellement indescriptibles que c'est presque incroyable ce qui se passe parfois en temps de guerre. D'autres fois, les motifs sont légitimes. Par exemple, la volonté de recouvrer une souveraineté nationale. Si tu t'es fait conquérir, souvent tu veux reprendre ce qui t'appartient. Et là, c'est comme on peut parler de guerre légitime. Mais en général, les guerres sont plus le résultat de péché que d'autres choses. Alors, dans les 11 premiers versets, on avait parlé de la première idée, c'est que El Elyon, le Dieu très haut, en français, on traduit... En anglais, c'est « the most high », c'est la même idée. Alors, les parties qui sont engagées dans la guerre. C'est intéressant de regarder dans les versets 1 à 3, qui est engagé dans cette guerre-là? Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que si on lit rapidement, tout ce qu'on voit, c'est une série de noms, une série de lieux, et on ne fait pas nécessairement les liens nécessaires pour comprendre le passage. Alors, verset 1 à 3, ça dit « Or, il arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'El-Lassar, de Kedar-Laomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi des nations, qu'ils firent la guerre. » Alors, on voit qu'il y a une coalition de 4 rois qui font la guerre à une autre coalition de 5 rois. Alors, qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome. Et là, on sait qui était là, Sodome. Hein? Lot s'était établi là. À Bircha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shéméber, roi de Tseboïm, au roi de Bélak et de Tsoar. Tous ceux-là se rassemblèrent dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Alors, le temps de la guerre. Ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer, ça se passe quand? Ça se passe au moment où Abraham a eu une victoire sur sa manière de se comporter. Il aurait pu se comporter différemment avec son neveu. Là. Et il est dans une victoire, qu'on pourrait dire spirituelle. Et il y a un lien à établir ici dans nos propres vies. C'est souvent après une victoire spirituelle qu'on a des attaques très puissantes. Parce que c'est comme si le diable il comprend que là, tu es dans un état un petit peu euphorique, puis il dit « c'est le temps, on frappe ». Et souvent, c'est une des leçons à retenir de ce texte-là. Dans nos victoires, quand on a eu une grande victoire spirituelle, c'est souvent le moment que le malin choisit pour attaquer avec force. Alors, Abraham venait d'obtenir une grande victoire dans sa vie, dans le chapitre 13, où il avait consenti à accorder à son neveu Lot le choix de son lieu de vie. Alors, on le sait, on l'avait étudié la semaine dernière, ou l'autre semaine avant, que Lot avait fait un très mauvais choix qui était basé uniquement sur des motifs charnels, égocentriques. Alors, on voit que là, il s'est placé lui-même dans une situation hors de la terre de Canaan, dans la banlieue de Canaan, si vous voulez dire. Et là, on voit qu'est-ce que ça l'a amené dans sa vie. Alors, il avait décidé, justement, de vivre dans la périphérie du pays de Canaan, et sa décision était très carrément charnelle. Et on sait par la vie... C'est quand même bizarre, parce que quand tu étudies la vie de Lot, si quelqu'un prendrait la peine de tout regarder ce que la Bible dit sur Lot, on verrait que... Mais la Bible dit que c'est un homme juste. Donc, Dieu lui avait accordé le salut, mais on ne peut pas juger de l'état de son salut par son comportement. Parce que son comportement signifiait plutôt qu'il était très charnel, que toute sa vie était une suite quasiment ininterrompue de mauvaises décisions. Mais que Dieu, malgré tout, l'a sauvé. Mais là, il ne faut pas prendre ça comme prétexte pour dire, ben là, moi, je peux me comporter de manière charnelle aussi, puis que le Seigneur va me sauver pareil. Faut pas aller dans les... Mais c'est pour démontrer que quand Dieu a accordé la grâce à quelqu'un, même parfois, si le comportement est pas toujours correct, le Seigneur garde quand même sa décision face à la personne. Donc, on voit le moment et on va regarder aussi les parties qui sont engagées dans cette guerre-là. Bien sûr, quand on lit ça, on n'est pas porté à aller chercher un dictionnaire biblique, puis de regarder la signification des noms, de regarder la signification des endroits. Pourtant, c'est toujours très, très riche d'enseignements. Alors, les quatre rois sont des descendants de Nimrod, du roi rebelle. Leurs territoires sont près de Babylone, parce que quand on lit Shinéar, c'est près de Babylone. Et Elassar et Elam aussi, c'est près de Babylone. Donc, c'est avec une question de nord, sud, est, ouest, là. Alors, les noms des rois sont significatifs dans la langue hébreu. Ça, c'est une chose que je prends de plus en plus conscience, qu'on passe souvent par-dessus des perles, des choses intéressantes qui sont dans les Écritures, mais souvent, après qu'on le sait, que dans les noms, souvent, il y a des choses de révélées. Souvent, quand on se met à fouiller puis à aller voir, on trouve des choses intéressantes. Alors, dans la langue hébreu, Amraphel signifie « adorateur des dieux », avec un petit « d ». Donc, c'était quoi? Un idolâtre. Arioch signifie « vénéré », probablement la vénération de sa propre personne. Et Kedar Laomer signifie « main pleine de gerbes et ravageur ». Donc, c'était, quand on parle de main pleine de gerbes, c'était que probablement quelqu'un qui un ravageur, c'est qu'il va chercher les affaires des autres, il est main pleine de gerbes, comprends? Il revient les mains pleines de gerbes, il est toujours en train de ravager les biens d'autrui. Alors, ça, c'était le genre de type de caractère des rois. Et ils se sont mis en association avec le roi Tidéal, qui était le roi des nations. Là, le texte ne nous dit pas quelle nation, mais c'était sûrement un roi puissant qui a voulu se mettre avec les autres dans le but de dominer. Et pourquoi il dominait? Pourquoi il voulait dominer ces fameuses régions-là, Sodome, Gomorre et les autres villes? La fertilité, la facilité, s'emparer de la richesse, des biens, de la prospérité de ces gens-là avec facilité. On les attaque, on ramasse leurs biens, puis nous, on en profite après. Alors, les envahis, maintenant, on vient de parler des conquérants. Donc, les quatre, leur signification. Et il y a aussi, je n'ai pas pris la peine d'aller voir tous les noms des endroits, parce qu'ils disent souvent « roi de ci, roi de ça ». Il y a encore des significations qui sont rattachées au nom de lieux qui sont mentionnés. Maintenant, on vient de parler des conquérants, on va parler maintenant des conquis ou des envahis. Alors, les cinq rois de la plaine sont Béra, qui signifie cadeau, Bircha, qui signifie fils de la méchanceté, un drôle de nom, pas si quelqu'un est fier de porter un nom pareil, là. Fils de la méchanceté, Chinéab, qui veut dire « dent du Père », dans quel sens que ça veut dire « dent du Père », je ne suis pas trop sûr, là, mais en tout cas, ça veut dire « dent du Père », et Shéméber, qui veut dire « ambition dans le ciel ». Très intéressant de tout mettre ça ensemble, parce que là, on voit les caractères des personnes. Et il y a un cinquième roi dont le nom n'est pas mentionné. Le texte nous dit que les quatre rois avaient envahi ces cinq villes-là, les avaient conquis et les dominés ou les envahis avaient resté sous leur domination pendant 12 ans. Il y avait une guerre, les quatre rois puissants envahissent ces gens-là, les mettent sous leurs bottes, comme on dit. Et à cette époque-là, quand tu étais envahi, il fallait que tu payes un tribut. Ça voulait dire qu'annuellement, il fallait que tu donnes de l'or, ou ben non, des céréales, ou ben non, toutes sortes de biens à celui qui t'avait vaincu. Alors, les caractéristiques morales des envahisseurs, d'après les noms, C'est assez facile à voir des rebelles, des idolâtres, des violents, des dépravés, des méchants, des ambitieux et des cruels. Donc, la guerre était pognée, et là, on voit que dans la guerre, même les justes peuvent être impliqués là-dedans. Qu'on le veuille pas, s'il y a une guerre, quand on est jeune, qu'est-ce qui arrive? Si tu es rendu à 70 ans, peut-être tu as une chance de... Ils vont peut-être bien te mettre dans un bureau. Mais si tu es jeune, dis-toi une chose, tu vas y aller, hein? Parce qu'aux États-Unis, c'est le même, ça marche. Partout, ça marche comme ça. Quand il y a des guerres, les jeunes hommes en santé sont enrôlés. Ça te tente pas, tu y vas. C'est le même, ça marche. Mais les envahis, après 12 ans de domination par les quatre rois, ont décidé de se rebeller. Pas une caractéristique spéciale des hommes, c'est... Alors, au bout de 12 ans, la 13e année, ils décident de se libérer de leur dominateur. Quelle tactique ils utilisent? La tactique qu'ils utilisent, c'est de les emmener sur un terrain connu. Et le terrain connu, c'était des puits de bitume. Et ça veut dire, apparemment, que c'est comme un genre, d'après les commentateurs, c'est comme un genre d'asphalte liquide, que si quelqu'un tombe là-dedans, il est fait à l'os, il ne peut pas sortir de là-dedans, c'est gommeux. Et ils les emmenaient là-dedans parce que dans la bataille, souvent, les chevaux courent. Et là, leur idée, c'était comme, OK, on va se libérer d'eux, mais on va les emmener sur un terrain que nous, on connaît et qu'ils vont tomber là-dedans. Mais le texte nous apprend que ce n'est pas les quatre rois qui ont tombé dedans. La guerre a tourné et c'est eux qui sont tombés dans le propre piège qui voulait tendre à leurs ennemis. Alors, bien entendu, ça dit que c'était dans la vallée de Sidim, ça c'est près de la mer Salée. Le but était d'amener le combat dans un lieu rempli de pièges. Je ne sais pas ce que ça pouvait avoir là physiquement, là, mais ça devait être dangereux de te promener dans ce terrain-là parce que les puits... Des fois, tu ne vois pas toujours quand tu t'en vas en chevaux, hein, puis tu cours, puis tu veux sauver ta vie ou tu veux attaquer, tu ne le vois pas, mais si ton cheval tombe là-dedans, là, pense-y plus, tu ne remonteras pas de là, c'est des puits, avec tout ce genre d'asphalte-là, là-dedans. Alors, ils cherchaient à les faire tomber là-dedans dans la bataille, et vraiment, dans le verset 4, on voit la raison de la guerre, de la deuxième, parce que la première partie nous dit qu'ils les avaient vaincus, les cinq rois, puis qu'ils ont eu pendant 12 ans. Au bout de 13 ans, la 13e année, les cinq rois qui avaient été vaincus ont dit, oh, là, nous, on reprend le contrôle, on veut reprendre le contrôle de ce qui se passe. Parce que ça dit dans le verset 4, pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedar, la Homère, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Très intéressant aussi de regarder les numéros là-dedans. Le chiffre 13 dans les Écritures est toujours attaché à quelque chose de rébellion, quelque chose de très négatif en général. Probablement que peut-être ça vient de là, qu'on n'ait pas des fois de 13e étage ou tout ça, la superstition. Là. Mais il reste que dans les Écritures, c'est quand même significatif que le chiffre 13 est souvent rattaché à un concept négatif, quelque chose de négatif. Alors, les envahis, qui étaient ceux qui avaient été conquis, les cinq rois, décident de se réunir pour tenter de se libérer de leur joug. Alors, dans le verset 5 à 11, on voit la stratégie des envahisseurs pour reprendre le contrôle. Voyez-vous, les cinq rois, ils décident de les emmener là, mais là, la manière de réagir des quatre rois, c'est une tactique d'intimidation. Autrement dit, si vous regardez les noms qui sont mentionnés dans les versets 5 à 11, c'est tous des hommes très puissants, des géants, des mots qui finissent par Réphaïm. Le mot Réphaïm veut dire les géants, le mot Zuzim veut dire les puissants, le mot Enim veut dire les terribles, et les mots Orient veut dire les habitants des cavernes, qui ont été habités plus tard par les Édomites. Alors, et on parle d'Amalécite. Et on parle aussi des gens qui sont attachés à des dieux païens, parce qu'on parle de Astéroth, quand on parle de des Réphaïm, puis on parle d'Astéroth. Astéroth, c'est Astarté. Donc, des gens qui étaient des idolâtres. Et la tactique était la suivante. Ils veulent s'énerver. On va aller battre les plus forts de toute la région. Et ça va, ils vont retenir la leçon. Si nous, les quatre rois, on est capable de soumettre les puissants de la région, allez vous rasseoir. C'était ça l'idée. Ils voulaient impressionner leur révolté. Et l'arme qu'ils utilisent, c'est celle de l'intimidation, de la terreur et de la prévention. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de faire de la prévention. Parce que si tu réussis à intimider les gens, puis là, imaginez-vous les autres qui se révoltent, puis là, ils entendent parler que les quatre rois, ils ont battu les géants, ils ont battu les terribles, ils ont battu ici, ils ont battu ça. Psychologiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu dis, oh, peut-être que je devrais me rasseoir. Peut-être que je devrais réviser ma position. Alors, la manière de réagir des conquérants était aussi très psychologique. Dans la guerre, on sait souvent, il y a souvent de la psychologie, et c'est très important de l'utiliser. Alors, on mentionne dans le verset 10 que la vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Alors, du bitume, c'est tout simplement, c'est comme de l'huile, c'est comme de l'asphalte liquide un peu, là. D'où on tire les puits d'huile aujourd'hui, c'est dans cette région-là. Alors, ils s'en vont dans cette région-là. Alors, après les victoires, les quatre rois envahisseurs se rendent sur le territoire rempli de pièges des envahis de la plaine, les cinq rois qui étaient en rébellion. Mais le problème, c'est que dans le verset 10, ça dit « La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite. » Voyez-vous, tu cherches à emmener l'ennemi sur un terrain pour le faire tomber dans un puits de pétrole. Et dans la guerre, les choses changent rapidement. Et c'est eux qui sont obligés de s'enfuir, puis c'est eux qui tombent dedans. La leçon spirituelle qu'il y a là-dedans, hein, souvent, est prise celui qui croyait prendre. Alors, c'est intéressant de noter ça aussi. Alors, les pièges qui étaient tendus à leurs ennemis se referment sur eux-mêmes. Les cinq rois envahis et conquis perdent la bataille une nouvelle fois. Imaginez-vous si vous êtes conquis, et là, vous cherchez à vous révolter, puis vous êtes reconquis. Qu'est-ce que vous pensez que l'ennemi va faire? Il va serrer la vis et il va la serrer pas à peu près. Il ne t'énerve pas deux fois. Tu sais, mais ça, dans ce temps-là, c'est de même ça marchait. Là. Là, on voit que Lot, qui était pogné dans la ville de Sodome, se fait saisir par ses ennemis-là et il prend lui, les femmes, les biens et il part avec ça. Mais là, on voit dans le verset 12. Le deuxième point, c'était le Dieu Très-Haut juge par la guerre. Alors, il se sert de cet instrument-là pour juger Lot. Malheureusement, Dieu, des fois, envoie des jugements dans nos vies. Encore faut-il les voir, les accepter, les intégrer, les comprendre. Et d'après la suite, parce qu'on a tous lu la Genèse, on sait que Lot n'a pas retenu la leçon. Il est retourné à Sodome. Il avait déjà constaté que c'était des gens pleins de méchanceté, que le péché les dominait, au complet. Et plutôt que de voir la main de Dieu dans le jugement, de reconnaître que Dieu, par miséricorde, me laisse sortir par l'intermédiaire d'Abraham, retourne avec sa femme et ses enfants dans ce coin-là. À quelque part, ça aussi, c'est des choses qui sont dans le texte, mais souvent, quand on lit trop rapidement, on ne le voit pas. Quand Dieu nous envoie un jugement pour nous corriger de quoi que ce soit, demandons au Seigneur de nous ouvrir l'intelligence pour être capable de saisir pourquoi il nous envoie ça, de l'intégrer et de changer des choses par rapport à ce qu'il nous a dit. Alors, verset 12, c'est-à-dire du chapitre 14, ça dit les rois, les dominants qui redominaient les cinq qui avaient déjà été en. Là, il dit, ils prirent aussi Lot, le fils du frère d'Abraham, autrement dit, c'est son neveu, qui demeurait dans Sodome, et tout son bien. Voyez-vous l'idée, Dieu se sert de ton péché pour corriger ton péché. Quel était le péché? La convoitise. Et il se sert que là, tout ce que tu as gagné par ta convoitise, je vais faire en sorte que tu vas le perdre. Tu ne l'auras plus. Il aurait dû comprendre. Il ne semble pas qu'il ait compris. Abraham a compris. Alors, plusieurs leçons nous sont enseignées dans ce passage-là. La guerre est parfois justifiable, la volonté de recouvrer sa souveraineté, sa famille et ses biens. Quel était le motif d'Abraham de se mêler de ça? Recouvrer son neveu, recouvrer son épouse, recouvrer ses biens. Alors, la volonté, parfois la guerre, est justifiable dans le sens que tu veux recouvrer ce que tu considères que les autres t'ont enlevé sans raison. Deuxième leçon qu'on apprend dans le passage, la victoire est souvent expérimentée par les méchants et ceux dont la cause est injuste. Ce qu'on voit dans le texte. Les quatre rois qui sont pourris, ils avaient déjà dominé ces gens-là pendant 12 ans, ils essayent de se révolter, ça ne marche pas, ils essayent de donner la leçon par l'intimidation, ça ne marche pas, en fin de compte, les pièges tendus se referment sur toi-même. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Que ce n'est pas toujours ceux qui ont la cause juste qui gagnent. Parce qu'encore là, Dieu se sert de ces choses-là pour toutes sortes de raisons. La troisième leçon, c'est que de grandes souffrances et de grands désastres accompagnent toutes les guerres. Par exemple, dans un pays comme, je ne sais pas, la France ou la Belgique ou n'importe quel pays d'Europe, il y avait des chrétiens, la guerre 39-45, bien qu'ils veuillent, qu'ils ne veuillent pas. Ce n'est pas eux autres qui ont voulu qu'il y ait une guerre, mais tu es pogné dedans pareil. Mais quand il y a une guerre, ça ne veut pas dire que Dieu va préserver tous ceux qui lui appartiennent de toute souffrance, de toute misère, et de toute perte de vie ou de tout inconvénient, quel qu'il soit. Alors Lot est impliqué, bien sûr, dans cette guerre-là, bien malgré lui. Alors, la guerre est un jugement dans lequel les innocents sont concernés. La deuxième idée du verset 12, c'est que la guerre est utilisée par Dieu comme instrument de rétribution. La rétribution, c'est quand on pêche par... Si quelqu'un pêche par orgueil, le Seigneur va t'humilier. Et vous, il y a comme une balance. Si quelqu'un pêche par convoitise, il va t'enlever tes biens. Et je l'ai vu personnellement dans ma vie, à maintes reprises, des personnes qui étaient chrétiennes puis qui sont tombées dans une soif de pouvoir et d'argent. Le Seigneur a fait qu'ils ont tout, ils ont été, comme on dit en québécois, ils ont été lavés. Plus un bien. Le Seigneur se sert souvent de ça pour rétribuer. Rétribuer, ça veut dire qu'il s'en sert comme correctif. Et si ce n'était pas ça, la bonté de Dieu là-dedans, puis la miséricorde de Dieu, de se servir des événements comme ça pour nous corriger, c'est une grâce énorme. Parce que tu t'en allais te perdre. Et là, il permet que tu perdes dans la chose qui devenait d'idolâtrie pour toi, il te l'enlève. Bien sûr, sur le coup, ça fait mal. Mais la personne qui est le moindrement spirituelle va comprendre, ah, dans le fond, c'est peut-être vraiment une bonne chose que le Seigneur m'a enlevé ça. Parce que je m'en allais dans une mauvaise direction. Alors, Lot mérite le jugement divin. Il avait fait un mauvais choix en quittant Abraham et son influence. Parce que la preuve, y retourner. S'il avait été sous l'influence d'Abraham, peut-être qu'Abraham y aurait dit, « Bien, franchement, ne retourne pas là. Tu sais comment ils sont. Tu vas subir leur influence. » Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, là, on est influencé par notre environnement. Et c'est à nous un peu de le construire, notre environnement. Si on est entouré de méchants, bien, c'est à nous de sortir de ce milieu-là pour essayer de s'établir ailleurs. Alors, il a cédé à sa convoitise et à la facilité. Et il a persévéré à demeurer dans des territoires où il voyait clairement que les habitants étaient de grands pécheurs. La preuve, c'est que dans le chapitre 19, le Seigneur lui-même est descendu avec des anges pour détruire toute cette région-là, à cause que le péché t'a rendu extrêmement développé dans ces régions-là. Alors le Seigneur ici, comme rétribution à Lot, il permet qu'il soit captif et il permet aussi qu'il perde tous ses biens. C'est une grosse rétribution. Mais Lot, semble-t-il, ne perçoit probablement pas la cause de son malheur, qui est un jugement divin. Sa conscience est endurcie. Et pour quelle raison est endurcie? Tu n'as plus l'influence d'Abraham et tu es entouré de méchants. Tout ce que tu vois autour de toi, à longueur de journée, c'est juste... Et ça finit par t'influencer. Ça finit par avoir un effet sur ta propre conscience et sur ta propre manière de voir les choses et de vivre. Mais une autre chose qui est mentionnée, le jugement est approprié, il a péché par convoitise et le voilà privé de ses biens et de son confort. Il avait choisi le confort, la facilité, et là maintenant il ne peut. Quatrième chose à remarquer dans ce passage-là, c'est que le jugement est miséricordieux. La Bible nous dit que Lot était un juste. Dieu permet quand même. Il aurait pu se faire tuer. Là. Il aurait pu faire tuer toute sa famille, parce qu'à ce moment-là, il y avait des serviteurs. Il aurait pu permettre que tout ça se soit... Il lui coupe la gorge, mais c'est fini. Il permet qu'il garde la vie. Alors, le jugement miséricordieux, il aurait pu vraiment perdre sa vie dans cette guerre, mais le Seigneur permet qu'il perde uniquement ses biens. Et le jugement est en quelque sorte prémonitoire, c'est-à-dire qu'on voit à l'intérieur de ça qu'il n'a pas compris, et que c'est comme en voulant dire, si tu ne comprends pas là, un jour il va arriver encore pire, puis on voit les péchés que ça l'a emmené plus tard dans sa vie avec ses filles, coucher avec ses filles, puis il s'est enivré de vin, puis il a désobéi encore là, il n'a pas réagi immédiatement. Quand les gens ont dit « Sors », il était toujours en train de vouloir gagner du temps. Puis il disait « Sors du pays. Ah, ben, je peux-tu aller dans cette petite ville-là? Elle est petite. » Puis on voit que prémonitoire dans le sens qu'il y avait la conscience endurcie. Et déjà, on peut déjà prévoir par son comportement là qu'est-ce qui va y arriver plus tard. Alors, après la victoire, de son oncle, il va retourner dans Sodome alors qu'il aurait dû comprendre. Moi, je vois une leçon pour nous. Prions le Seigneur de nous donner de ne pas mépriser ou de ne pas ignorer ses jugements et ses miséricordes providentielles, même dans ses jugements. Parce que ça peut arriver que si Lot est un juste, il était aveugle et sourd aux avertissements de Dieu, ça veut-tu dire que nous aussi, on peut être aveugles et sourds? Mais prions pas que ça nous arrive. Seigneur, si tu permets qu'il y ait un jugement dans ma vie, permets que je le voie, permets que je le comprenne, permets que je l'intègre, et permets que ça change quelque chose dans ma vie. Troisième point, le Dieu Très-Haut contrôle la guerre. Donc, dans le verset 13 à 16, on voit qu'il y a un contrôle providentiel. La première caractéristique, c'est la providence de Dieu. Dieu permet qu'il y en a un qui s'échappe, probablement quelqu'un de Sodome, qui dit « Ah, lui, là, c'est son oncle. » Il était au courant qu'Abraham était béni et il cherche probablement à regagner en allant voir mon oncle. Il dit, « Va voir mon oncle, puis dis-y que ton neveu est éponyé. » Alors, ça dit dans le verset 13 et 14, « Et un fugitif vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. » Ah, c'est pas Abraham, le mot, la première mention, je me suis trompé tantôt, c'est l'hébreu, c'est le mot hébreu. Le mot hébreu, la première mention du mot hébreu, on avait parlé d'Hébert un petit peu, mais si c'est vraiment la première fois que le nom d'Abraham est relié avec la nation hébreu, comme de quoi il était un juif. Puis ça dit, « Or, il demeurait au chêne de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. » Donc, Abraham se trouvait en territoire ennemi, mais Dieu avait permis quand même qu'il puisse négocier la paix avec ces gens-là, une certaine forme d'alliance. Des alliances, c'est toujours, si tu ne m'attaques pas, je ne t'attaquerai pas, puis etc. Et verset 14, et quand Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier. Voyez-vous la rapidité, la générosité. Il aurait pu dire, ben là, lui, là, il fait juste, il a juste ce qu'il mérite, qu'il s'arrange avec ses troubles. La magnanimité, la grandeur d'âme. Mon neveu est mal pris, même s'il était un peu méchant vers moi, je vais quand même. Hey, imaginez-vous, c'était risquer sa vie, ça. Il risquait sa vie et il risquait la vie de ces gens-là. Et ça dit, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses fidèles. Là, on se dit 318. Là, il faut comprendre comment ça marchait à l'époque. Dans toutes des petites villes, pas plus ou moins grosses, une armée de 318 personnes qui étaient bien formées militairement, c'était puissant. Et Dieu permet que Abraham puisse élever, se monter une armée comme ça en peu de temps pour dire, là, il est le temps de se battre tout de suite, d'aller récupérer tout ça. Alors, 318 personnes de ses fidèles nées dans sa maison. Alors, c'est des personnes qui avaient sûrement reçu de l'instruction concernant le vrai Dieu et tout cela. Et ils décident de suivre. Alors, on voit le leadership d'Abraham était carrément établi parce que c'était quand même risquer ta vie à la guerre à ce moment-là. C'était dur dans ce temps-là. Quand on te pognait, souvent, c'était on te coupait des membres, c'était terrible. À l'époque, des patriarches, les guerres, c'était extrêmement dur. Et là, poursuivit ses rois jusqu'à Dan. Alors, le Seigneur permet qu'un fugitif vienne annoncer à Abraham que son neveu était fait prisonnier. Alors, on a ici la première mention qu'Abraham était de nationalité hébreu. Dieu avait béni Abraham en permettant qu'il ait fait alliance avec Eschol, frère d'Aner. Dieu avait aussi béni Abraham en permettant qu'il puisse disposer de 318 guerriers dans son clan familial. Alors, une armée de cette importance à cette époque-là était très significative. Le Seigneur, bien sûr, dispose l'esprit d'Abraham afin de décider d'intervenir et de recouvrir son neveu Lot, sa famille et tous ses biens. Alors, en le faisant, il fait preuve vraiment d'une grande noblesse et d'une grande magnanimité, une grandeur d'âme. Il n'y a pas un esprit revanchard. Alors, on a beaucoup à apprendre du Père des croyants. Quel genre de comportement on se devrait d'avoir, nous aussi, quand il y a des événements qui nous arrivent comme ça, on pourrait dire, bien, qu'il s'arrange, c'est lui qui a choisi ça, mais qu'il s'arrange, c'est trop. C'est pas de même que ça se passe. Ici, on voit que Dieu met à l'esprit de... Son neveu est mal pris. Il dit, j'arme des hommes, on part, on va reconquérir tout ça. Alors, il fait preuve vraiment de compassion fraternelle et d'un grand courage au prix de sa propre vie. Est-ce que nous, aujourd'hui, on serait prêts à risquer notre propre vie pour aller sauver quelqu'un qui nous a plus ou moins maltraités dans le temps? Mais il savait que c'était son frère. Alors, le contrôle, dans le verset 15, ici, on voit l'habileté d'Abraham et on peut être porté à penser que, bon, Abraham, c'était comme un petit génie militaire. Il a fait deux choses importantes là-dedans. Il a divisé ses troupes et attaquer de nuit. Quand tu attaques de nuit, c'est la confusion, ça peut vraiment aider. C'est-à-dire, puis ayant partagé ses troupes, donc il les a divisées, je ne sais pas, ils ne disent pas nécessairement comment il l'a fait, là, mais il a partagé ses troupes, et il se jeta sur eux de nuit. Donc, il ne devait pas être rendu très loin encore, pour que tu aies le temps d'y rattraper et de te battre contre eux. Et ça dit, lui et ses serviteurs, et il les battit. Ici, on voit vraiment la question que Dieu est avec son serviteur. Et on a de multiples exemples de ça dans les Écritures. Alors, le Seigneur permet qu'Abraham fasse preuve de génie militaire. Ses stratégies sont brillantes. Rapidité d'intervention, partage de ses troupes et attaque de nuit. Et le tout est couronné de succès. Verset 16, un contrôle des opérations... Et il ramena toutes les richesses qu'on avait prises Il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, et les femmes aussi, et le peuple. L'Éternel nous apprend dans sa parole qu'il peut accorder des victoires avec beaucoup ou peu de personnes. Je vous rappelle l'histoire de Gédéon. J'ai pris la peine de... Je voulais avoir une illustration. J'ai pris la peine d'aller fouiller dans mes livres pour savoir combien il y avait de personnes. Tu sais, on sait au début, quand on lit Juges 7, versets 2, 3 et 7, on mentionne qu'ils étaient probablement 32 000 Juifs pour aller essayer de se battre contre les Madianites. Le Seigneur a dit, en a trop, enlève-en 22 000. Il en restait 10 000. Seigneur, il dit, il y en a encore trop, parce que si je les laisse aller se battre avec 10 000, là, ils vont dire, ben, c'est nous autres qui avons gagné la guerre. Seigneur a réduit ça à 300. Mais moi, ce qui m'intéressait de savoir, je suis allé consulter John Gill, parce que lui, il est fort dans les détails, puis je suis allé visiter ça. Savez-vous combien les Madianites, leur nombre était évalué? 130 000 guerriers. Tu pars avec 300 hommes pour aller te battre contre une armée de 300 hommes contre une armée de 130 000. Imaginez-vous, le ratio, j'ai pris une calculatrice, j'ai calculé le ratio, c'est 1 pour 430. C'est un peu comme toi, si tu partais tout seul, il y aurait 430 Hells Angels devant eux, puis le Seigneur te dirait, vas-y, moi te donner la victoire. 430! Hey, le ratio était comme, puis le Seigneur a permis que il gagne, malgré ça. Alors, on voit ici que, dans le fond, pourquoi Abraham a gagné la guerre, c'est El Elyon. Et les versets suivants, quand on tombe 18, 19, 20, 22, c'est très clair qu'ils reconnaissent que c'est El Elyon qui t'a donné la victoire. Nous autres aussi, si on a des victoires, il faut reconnaître qu'elle vient de Dieu. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? N'oublions jamais que nous sommes en guerre spirituelle et que le Seigneur peut nous accorder des victoires spectaculaires sur des ennemis forts, organisés et très nombreux. Je pense qu'on peut retenir au moins ça comme leçon. Deuxième, imitons Abraham en volant au secours de nos frères et sœurs dans la foi au moment où ils vivent des difficultés. Dieu sera avec nous. Troisième application, rappelons-nous que toutes les victoires trouvent leur source en El Elyon, le Dieu fort, très haut, souverain, exalté et suprême, tant au ciel que sur la terre. Quatrièmement, implorons le Seigneur de nous donner de comprendre et d'appliquer toutes les leçons de ce passage dans nos vies de tous les jours. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont le commentaire de Matthew Henry. Matthew Henry est un maître pour trouver des applications à peu près à tous les versets. Et à chaque fois que je le lis, moi, je suis toujours... Où est-ce qu'il va chercher ça? C'est toujours... Il lit un verset, il lit l'histoire, et il voit une application pour notre vie moderne. Et c'est de même durant tout son commentaire, 6 volumes. Moi, je m'en sers souvent. Matthew Henry, je l'aime beaucoup, parce que souvent, ce qui nous aide à voir, c'est des applications pratiques. On peut lire l'histoire d'aujourd'hui... Puis juste voir Abraham, il y a eu une guerre, bon, il a participé, bon, il a récupéré les biens, bon, on ne voit pas d'autre chose que ça. Pourtant, il y a plein de leçons là-dedans. Pour ça que je dis la dernière, implorons le Seigneur de nous donner de comprendre et d'appliquer toutes les leçons de ce passage-là dans nos vies. Là, j'en ai nommé quelques-unes en développant, mais je suis convaincu qu'il y en a encore beaucoup plus que ça. Quand on se prend la peine de prendre le texte biblique, de le méditer, de prier l'Éternel de nous montrer « Qu'est-ce que tu veux me montrer à moi aujourd'hui, en 2016, dans ma vie personnelle? » Est-ce qu'il y en a des choses là-dedans, des leçons? Ne plein. Mais souvent, on les lit, mais on ne les voit pas. Mais on peut demander au Seigneur de nous donner de les voir. Non seulement de les voir, mais de les comprendre et de les appliquer dans nos vies. Adorons le Dieu Très-Haut. Sa puissance est infinie. Son contrôle sur tout est infini. Accordons-lui donc toute notre confiance. Amen.